Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International en ce mardi très neigeux en dehors du studio. Et il vaut mieux qu'on se tienne chaud ici, dans notre studio de RFI, n'est-ce pas Marc ?
On va se tenir chaud, j'adore. Oui, je valide.
Pourtant on a tous des gros pulls, mais c'est vrai que là c'est pas très agréable de mettre le nez dehors. Donc aujourd'hui dans l'émission, vous l'entendez déjà, Marc les bras, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour.
Il y a aussi Naïm.
Naïm Moniol.
Bonjour Naïm Moniol.
Salut, salut à tous.
Naïm Moniol qui est arrivé aussi tout transi. Patrick Juillard, bonjour.
J'ai réussi à surmonter les intempéries pour me joindre à vous.
N'est-ce pas hein,
parce estimez-vous
que
heureux.
C'est compliqué là de se
bonjour
déplacer.
Bonjour à tous.
Bonjour Olivier Pron.
Bonjour Annie Gasnier, moi je suis arrivé très très tôt, comme ça solutionne les problèmes.
Oui, hein, ça va mieux. Alors dans nos débats du jour, eh bien, une nouvelle défaite pour les Blues. Chelsea défait à Watford, malgré la présence de sa nouvelle recrue, Olivier Giroud. Que se passe-t-il chez les champions en titre ? Y a-t-il en Angleterre une malédiction pour les tenants du titre la saison d'après? Un record d'invincibilité pour le Barça, 22 matchs sans perdre, notamment lors du derby de Barcelone. Les Blaugrana sauvés in extremis par Gérard Piqué. Au vu des statistiques, Ernesto Valverde est-il plus fort que Pep Guardiola? Ce Barça ira à Londres jouer Chelsea en 8e de finale de Ligue des Champions. Compte à rebours, tout comme pour Paris et le Real qui a encore enregistré un match nul en Liga. Mais Zidane refuse de s'affoler. Il a cependant osé sortir CR7 avant la fin. Le retour de Clarence Seedorf sur un banc, celui du Deportivo La Corogne, club d'Espagne menacé de relégation. L'ancien international néerlandais, qui avait entraîné le Milan assez quelques mois, tente de relancer sa deuxième carrière de professionnel dans le football. Voilà le programme. Radio Foot, c'est parti.
Watford. Certainly stung into a response, and it's Yanmat making progress, and he'll get it back. Daryl Yanmat! Incredible! An extraordinary goal from the fullback. De Feo driving on. That is that. A goal on his home debut. Decore could get even better. Pereira. Oh, it's four! An astonishing night.
Et oui, quelle nuit patatras pour les Blues. Ils ont hier soir encaissé 3 buts en 6 minutes en fin de rencontre. Et ils seront repartis de Watford avec une défaite de 4-1. Un scénario catastrophe pour une équipe peuplée pourtant de grands joueurs, en tout cas sur le papier, et dont l'entraîneur avait bien du mal à expliquer les raisons de la déroute. Écoutons Antonio Conte.
Je suis évidemment très déçu. Notre performance n'a pas été bonne du tout. Nous étions transparents, nous avons joué avec la peur au ventre. Nous pouvons perdre, mais nous devons toujours essayer de jouer au football et essayer de montrer quelque chose de positif. Au lieu de ça, nous avons très mal débuté et il y a eu les 2 cartons jaunes de Bakayoko. Ils n'ont rien arrangé à la situation. Les choses se sont même empirées. Il y a eu le penalty et quand on est mené 1-0 dans ce type de match, avec 10 joueurs, c'est difficile de revenir.
It's very difficult to come back.
Bah oui, difficile et même impossible. Chelsea est même cette année celle qui a quand même été championne d'Angleterre. Naïm, comment peut-on comprendre une déroute pareille?
Bah, la déroute de Chelsea, la double déroute parce qu'ils étaient aussi sur une défaite 3-0 avant ça contre Bournemouth, oui. C'est simple, c'est que défensivement cette équipe n'y arrive plus. Il y a aujourd'hui un problème d'effectif à Chelsea. Conte avait demandé des renforts, notamment derrière. Il les a pas eu, il n'a eu qu'un seul attaquant. Et quand on regarde et le match de Bournemouth et le match de Watford, on se rend compte que c'est une équipe qui défensivement ne tient plus la route. Ses individualités, que ce soit Hazard ou d'autres, n'arrivent pas à la porter. Fabregas était sur le banc pour la deuxième fois de suite. Et puis voilà, défensivement vous êtes pas bon, vous n'arrivez pas à marquer des buts. Et en plus vous faites rentrer dedans. Alors il y a l'aspect footballistique, puis il y a aussi l'aspect communication. La conférence de presse de Conte a quand même été très bizarre, où il a plusieurs fois dit que ses dirigeants étaient libres de faire ce qu'ils voulaient le concernant. On sait qu'il va s'en aller en fin de saison, mais je trouve que la communication du club reflète assez bien les performances, très irrégulières, et surtout des problèmes qu'il y a entre Conte et sa hiérarchie.
Ouais. Patrick,
moi je trouve que ça
reflète ça. C'est ce ouais, problème entre moi, un entraîneur et c'est la direction.
Absolument. Et si on regarde les 5-10 dernières années, on s'aperçoit que Chelsea n'a jamais gardé un entraîneur longtemps, même quand les résultats étaient là. Il y a toujours des changements.
Même quand il y avait un titre de champion.
Ce club n'a pas vraiment. Il y a beaucoup de moyens. Il y a un public, il y a une histoire, c'est un beau club historiquement Chelsea, mais je sens qu'il n'y a pas de vision à long terme et qu'on fait des coups. Ça peut être des bons coups, ça peut être des mauvais coups. Et là, en ce moment, avec Conte, on sent que lui-même, je pense qu'il ne se sent pas vraiment... il sent pas l'investissement de ses dirigeants, il sent pas une confiance énorme en son travail, il se sent pas vraiment épaulé, et là il est en train d'un peu, comme certains joueurs peuvent lâcher sur le terrain, lui, j'ai l'impression qu'il est en train de lâcher sur le banc, et on le voit, en plus hier il y a eu des circonstances aggravantes avec un match absolument catastrophique de Tiemwe Bakayoko quand même, qui a fait une demi-heure.
Qui est exclu, hein, parce qu'il a dit bien qu'il termine à 10.
De deux jeux dans 5 minutes.
Et tout ça part à volo complètement, comme l'a dit Naïm. Tous les joueurs dont on attend qu'ils soient les leaders de l'équipe, que ce soit défensivement ou offensivement, tous ces joueurs-là ne sont pas à leur niveau. Même Eden Hazard, qui a mis un joli but, qui a égalisé, qui aurait pu permettre à Chelsea de sauver un peu les meubles, ça n'a pas suffi. Ils se sont fait submerger avec
Eden
un but
Hazard
splendide.
Eden Hazard était attaquant pointe.
Pour la deuxième fois de suite, et c'était déjà le cas.
Morata est blessé.
Il est blessé entre guillemets.
Oui, il est touché au dos.
C'est non seulement pour la deuxième fois de suite en championnat, c'était déjà le cas aussi au replay de la Carling Cup contre Arsenal où ils ont perdu. Donc c'est-à-dire que tu utilises un ailier pour jouer en pointe, un mec qui est pas à son poste. En plus, tu fais pas jouer Fabregas qui est quand même devant la défense, sécurité supplémentaire.
Et puis, la complémentarité qu'il faut.
Kanté plus que Bakayoko.
Absolument.
Ce qui est assez surprenant avec Kanté, on comprend plus très bien ce qui se passe. On va prendre l'exemple. Donc hier soir, je regarde un petit peu, puis d'un coup c'est vrai Eden Hazard, tiens, mais pourtant il a recruté un joueur qui s'appelle Giroud qui est quand même affûté, qui a quelques jours joué avec Arsenal. Ses stats, quoi qu'il arrive, sont peut-être faméliques, mais avec le temps de jeu, pour moi elles sont très bonnes, donc on comprend pas. Morata qui a fait un bon début de saison. Après, il faut savoir aussi Conte, il veut à tout prix Giroud, mais entre temps il a quand même vu Peter Crouch, ensuite il a vu Andy Carroll, ah non il est blessé, bon finalement je prends le Giroud.
Il y a eu Zeko aussi, l'épisode Zeko.
À mon avis, ça part dans tous les sens. Il a perdu le fil complètement parce qu'on comprend pas. Moi, j'adore Andy Carroll. C'est un joueur très puissant, très violent. Enfin, tout. Mais après, Peter Crouch. Et puis d'un coup, il dit bon, finalement, mais je prends Giroud. Mais Giroud, c'est un super joueur. Enfin, qu'on le veuille ou non. Ah, et oui. Hier soir, il démarre. Eden Hazard qui doit se coltiner. Fabregas, qu'on le veuille ou non, il a besoin de 4 ballons pour vous envoyer 2 passes décisives. Parce qu'il est un petit peu plus âgé. Donc, avant, c'était 4 sur 4. Là, c'est 2 sur 4. Mais c'est très, très étrange. Et puis, les joueurs, certains joueurs comme Bakayoko, qui pour moi, c'est un festival. Il a dû voir Baldé. Il était sur Canal dimanche soir. Il a vu Baldé. Il s'est dit, ah ben, je vais faire pareil, mais plus vite. Au lieu de faire 45e, je vais faire 25e. Mais c'est surprenant. Et les joueurs sont
lui, contrairement à Baldé, il a pas mis de joli but. Hein.
Exactement. Exactement.
C'est le deuxième mercato très mal géré de la part de Chelsea. Parce que l'été dernier, ils sont quasiment rien recruté. C'est un des effectifs le plus court en Angleterre.
Et quand tu perds Costa, qui était important quand même.
Mais il a voulu perdre aussi Conte.
Il a voulu le perdre.
Il y a eu cette gestion-là. En septembre, tu as ton entraîneur qui te dit, de toute façon, je veux rentrer en Italie, j'en ai marre de l'étranger. Au mois de janvier, fin décembre, janvier, t'apprends qu'Eden Hazard n'a pas prolongé, qu'il veut s'en aller. De toute façon, dès qu'il a un micro sous le nez, il parle du Real Madrid. Donc il faut comprendre, lire entre les lignes. Aujourd'hui, tu as encore ton entraîneur qui te dit, moi, les dirigeants, ils font ce qu'ils veulent avec mon avenir, je suis là, mais s'ils veulent plus, ben, je m'en vais, et puis voilà. Donc en gros, la situation.
Et en plus, on parle de Luis Enrique, déjà, pour remplacer Conte, peut-être même avant la fin de la saison en cours. Sachant qu'il y a un match, quand même, Chelsea-Barça.
Barcelone, bien sûr.
Ouais. Et que Luis Enrique pourrait être un bon, pourrait les aider à bien préparer ce match-là, quoi.
Un effectif court, l'année dernière, t'avais que le championnat à jouer, donc à la rigueur, ça pouvait passer. Là, t'es en Ligue des Champions et en plus dans les matchs importants. Avec 17 joueurs professionnels, c'est pas possible, tu vois. De Manchester, ils ont plus de 25.
Et on voit, bon, on va en parler plus tard pour le Real, donc je vais pas faire long là-dessus, mais on voit que les grands clubs qui ont de fortes ambitions, qui ne renouvellent pas régulièrement, qui ne régénèrent pas régulièrement leur effectif, ils se retrouvent essoufflés avec des joueurs qui jouent comme des sénateurs parce que de toute façon, il n'y a pas de concurrence.
Mais alors, on parle de Chelsea et en se demandant finalement, puisqu'ils sont champions en titre, s'il y a une espèce de malédiction, mais il y a 2 ou 3 ans, ils étaient déjà champions avec Mourinho et on sait que dans ce club, en fait, c'est la valse permanente des entraîneurs. Avec Abramovic, c'est un an et demi, et puis après, on change un peu en dépit du bon sens. On se souvient l'année où il gagne cette fameuse Ligue des Champions. C'était déjà plus Benitez, hein, si je ne me trompe pas, qui était l'entraîneur en titre qui avait terminé la saison. C'était Di Matteo. Oui, et qui après n'est même pas resté.
Qui derrière s'est fait, éjecté
lui aussi.
Mais c'est la rentabilité maximum, hein, ça, quand tu as des présidents businessmen. On en parlera tout à l'heure un petit peu aussi avec le président de la Corogne. Mais quand tu as un entraîneur, un président qui veut des résultats, c'est tu n'as pas de place au projet à long terme. Tu prends un mec qui doit avoir des résultats tout de suite. Si ça ne marche pas, il dégage. Même un mec comme Guardiola, si il était à Chelsea, s'il avait eu comme l'année dernière par exemple une saison un petit peu d'adaptation compliquée, Il aurait dégagé, et pourtant c'est Guardiola.
Parce que Conte projet, a une première saison moyenne, et il a une deuxième saison où il était champion quand même.
Oui, non mais, parce que, attends, t'es champion.
Deux saisons, c'est la moyenne.
À Chelsea, c'est la moyenne. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, l'effectif a quasiment pas bougé. Et que Conte ou pas Conte, tu peux avoir un super entraîneur. Quand tu perds quasiment tous tes défenseurs avec lesquels tu étais champion, que tu renouvelles avec des joueurs de moindre qualité, et surtout que tu renforces pas ton équipe, tu as juste remplacé ceux qui sont partis, tu te retrouves dans la situation actuelle.
En sachant qu'attention, au championnat, ils sont pas largués, ils sont que quatrième.
Oui,
bon, à part City largués, qui est très loin.
Ils sont non, pas largués parce que t'as, voilà, c'est
parce
une
que Liverpool
bon
fait des nuls, parce que Tottenham fait des nuls, parce que
mais à un moment
United
donné,
n'avance pas.
Manchester United
ils sont pas largués,
pas.
Attention.
Oui, non, mais à un moment donné, où Manchester United d'avance pas, ils auraient pu justement revenir dans la course à la deuxième place.
La semaine dernière en gagnant et là en gagnant.
Et là, avec deux défaites de rang au final.
Mais ouais. Alors que par exemple Arsenal, qui pendant un moment nous semblait largué pour cette course à la Ligue des Champions, eh bien n'est qu'à 5 points de Chelsea. Et eux, ils viennent de mettre un 6-1, si je ne me trompe pas.
5-1
au cours du week-end. Et donc peut-être qu'eux, ils sont renforcés.
Non mais Chelsea n'est pas largué, mais Chelsea est quand même sur une très mauvaise dynamique puisqu'ils sont champions en titre. Donc être quatrième quand tu es champion en titre, c'est un très mauvais signe. Au contraire, Tottenham et Liverpool, ils lâchent des points en route, mais ce sont deux équipes qui progressent plutôt dans le jeu, qui s'améliorent avec le temps, au contraire de Chelsea qui est en train de se déliter complètement.
Marc, est-ce que la mésentente vient de l'entraîneur avec les joueurs ou de l'entraîneur avec ses dirigeants?
Je pense
dans ce cas-là.
Non mais tout est cumulé. Parce que si
pourquoi Abramovic ne fait pas confiance à un entraîneur qui vient déjà de faire deux bonnes saisons et
ça,
d'être champion.
Ça c'est le football. Si Zidane perd contre Paris, je sais même pas s'il finit la saison. Donc alors aujourd'hui, c'est pas le cas de dire oui, c'est le président de Chelsea ou le directeur ou le chairman. C'est qu'aujourd'hui, c'est le football, ça va super vite. Donc si Conte se fait sortir, mais pour moi, ils sont pas forcément largués. Après, est-ce que les joueurs l'ont lâché? Je ne pense pas. Est-ce que lui, c'est vrai que ses déclarations sont de
lui, il a l'air d'avoir
là,
lâché
lui-même. Lui nous explique là, même sur ce qu'on a entendu, que quoi qu'il arrive. On mène 1-0, mais c'est difficile face à une telle équipe avec les conditions. Mais c'est Chelsea, En fait, il a lâché le combattant, l'entraîneur qu'on voyait la saison précédente, haranguer la foule, qui sautait. Aujourd'hui, il est éteint. Et ça, c'est très surprenant.
C'est une victoire lors des 5 dernières journées, pour donner un ordre d'idée, parce qu'ils étaient vraiment à la bagarre. Après, le match continue. Il y a 3 places à prendre pour 5 équipes. Personne n'est largué. Arsenal revient, mais enfin voilà, on refait ce débat dans 15 jours, on aurait pu le faire il y a 15 jours, change.
On parle aussi un petit peut-être du Boxing Day, parce que eux s'en sont bien sortis sur le Boxing Day, d'autres équipes l'ont plus mal vécu. Est-ce que le contre-coup est là aussi? Parce qu'il y a des joueurs qui sont fatigués, mais c'est vrai, certains ont été blessés, qui reviennent. Donc, voilà. Bon après, maintenant, il y a Barcelone qui arrive, il y a City qui arrive, il y a United qui arrive.
Non mais c'est vrai qu'on se faisait une joie de ce Barcelone-Chelsea, c'est vraiment le huitième de finale à l'échelle.
Début décembre. Début décembre, ouais.
Et là, Barcelone, on va en reparler très en forme et Chelsea nettement moins.
Le rapport de force est déséquilibré nettement.
Olivier Giroud qui est passé chez ses Blues, c'était sa première, alors malheureusement un petit peu ratée, mais quel rôle veut lui faire jouer Conte? Il a une place de lui comme titulaire.
Non, je pense pas qu'il va en faire un numéro 1 à la place de Morata. Par contre, ce qui est sûr, c'est que en faire un espèce de numéro 1 bis, parce que la situation de Morata n'est pas très claire, je suis pas sûr qu'il s'éternise très longtemps à Chelsea, surtout si Conte s'en va. Il peut avoir une place plus importante que celle qu'on lui octroyait il y a encore quelques jours. Il arrivait pour être la doublure. Moi, je pense que plus ça va aller, plus pour être numéro 1 bis. Sans dire que c'est un grand attaquant international. Marc l'a dit, c'est un mec qui a des bonnes statistiques avec le temps qu'il joue. Et il pourra, alors peut-être pas techniquement parce que c'est pas son fort, mais sur le jeu en pivot, sur tout ça.
Si on sent pour lui, marquera des buts de la tête.
Il pourra amener quelque chose à cette équipe. C'est une bonne recrue, Giroud, pour Arsenal, mine de rien.
Non, mais Chelsea, en plus, avec un jeu sur les côtés très riche, avec Alonso, avec Moses, avec des très bons passeurs comme Hazard ou Fabregas, il a moyen de marquer des buts, hein.
Enfin, il marquera.
Moi, je le tiens pas pour un très grand attaquant, mais par contre, on peut pas enlever son efficacité à Giroud. Quand il est en position, en général, il cadre.
Puis il vaut mieux être numéro 1 bis, voire numéro 2 à Chelsea, que numéro 4 à Arsenal. C'est-à-dire, le problème est vite réglé, quoi. Il a tout à fait raison de s'en aller.
Surtout qu'Arsenal, là, on a l'impression que tout a changé devant.
Et puis,
l'Arsenal,
c'était peut-être le moment de s'en aller. Quand on voit la chamaquisation de la casette en ce moment, Giroud, c'était peut-être le bon moment. Pardon pour le terme, mais...
On l'a bien compris.
Pour ceux qui ont suivi à l'époque.
Allusion donc à 1972 et à
2011.
Un dénommé Chamac, ancien prix Marc
Mignot. Très bon joueur qui avait fait 6 bons mois à Arsenal.
Qui aurait dû rester à Bordeaux,
totalement du circuit. Et
il est où d'ailleurs, Patrick, vous qui suivez tout le monde, Marwan
Chamac? Il est à Pattaya en Thaïlande où il
avait fait quand même.
Il était à Cardiff City jusqu'à l'année dernière en Championship et là il est sans contrat.
Il a disparu des compteurs. Oui, allez, vous lui accordez accordé 6 mois à Arsenal, mais en gros, en quittant Bordeaux.
Il a mis 7 buts à Arsenal, quand même.
Mais finalement, le prix Marc Villafoué, le premier, il n'a pas porté chance.
6 bons mois à Bordeaux et 6 bons mois à Arsenal. Donc, c'est vrai que c'était, l'évolution était rapide, quoi. Ça allait vite.
C'était peut-être suffisant pour s'assurer une bonne.
Et Gourcuff, 6 bons mois aussi à Bordeaux, et depuis.
Pas pour les mêmes raisons.
On évoque cette malédiction peut-être qui pèse sur des champions d'Angleterre en titre. Évidemment, on pense à Leicester. Leicester en ce moment, Olivier, ils sont moins largués que l'année dernière quand ils étaient traînés leur titre de champion.
Ils sont à leur place. L'année dernière, ils étaient finalement 14e ou 12e de première ligue. C'est finalement la place qui était la leur. L'anomalie, c'était qu'ils avaient été champions en 2016. Oui. Là, ils ont changé d'entraîneur. Claude Puel est arrivé. Ils étaient 14e au moment de la arrivé de Claude Puel fin octobre, ils sont 8e. Moi, je pense qu'on peut considérer qu'il faut une plutôt bonne saison.
En 2016,
Leicester, dans les 8 premiers, 2 ans après un titre de champion, c'est finalement pas si mal parce qu'ils venaient de loin quand même.
En 2016, ils sont champions pour deux raisons. Parce qu'on peut penser qu'il y a une certaine manière de surperformer de beaucoup de joueurs. Et ensuite, parce que tous les gros ténors étaient complètement dans le marasme cette année-là. Arsenal n'avait pas su profiter des failles des grands. Chelsea n'y était pas. Liverpool non plus. Mm-hmm. Les deux Manchester non plus. Donc finalement, ils avaient profité de ce vide du pouvoir.
Oui, puis ils avaient un effectif en plus qui avait servi leur ambition, exactement.
Le point commun de ces équipes-là, c'est que l'année de leur titre, elles ne jouent que le championnat. Et dès que tu arrives avec un calendrier plus fourni, c'est compliqué. Et surtout en Angleterre, tu as beaucoup de concurrence. Tu as 4-5 équipes chaque année qui peuvent jouer le titre. Alors qu'en Allemagne, tu n'en as quasiment qu'une. En Italie, c'est pareil. En Espagne, tu en as 2-2,5 selon la saison de l'Atlético. C'est toujours plus compliqué de conserver son titre en Angleterre qu'ailleurs.
Oui, et puis avec des joueurs qui ont été champions d'Angleterre, qui ont rêvé de partir, c'est même encore le cas il n'y a pas si longtemps pour Mahrez, et qui finalement sont restés. Donc ils doivent se remettre dans cette routine. Ils doivent digérer. Ils sont déçus d'être restés. Claude Puel, en tout cas, fait du plutôt bon travail.
Le succès est terrible dans certains clubs.
Il plaît. Il a été viré de Southampton alors qu'il avait amené Southampton à la 8e place du championnat. Ouais. Finale de Coupe de la Ligue, c'était une première depuis 79. Ouais. Il est viré.
Et il méritait pas de perdre contre Manu. Hein. Il méritait
et
pas.
Voilà. Et il se retrouve
but
là.
De Zlatan à la dernière minute.
Les supporters de Leicester l'appellent Santa Claude. En tout cas, l'appelaient au moment du Boxing Day Santa Claude, Santa Claus. Pour ceux qui ne pratiquent pas l'anglais, donc petit Papa Noël en quelque sorte.
Ouais, enfin, la méthode Puel, parce qu'on l'avait vu justement à Southampton. Southampton, ils sont bien plus bas.
Ils viennent de gagner. Oui, ils étaient sur 12 matchs sans victoire. Ils ont gagné ce week-end. Donc, du coup,
Mahrez retrouve un niveau assez intéressant. C'est vrai qu'on l'a souvent pointé du doigt pour être très irrégulier. Depuis que Claude Puel est arrivé, Mahrez, qui est la vraie star de cette équipe, parce que Vardy a un peu disparu, il est en train de retrouver
du coup. Il en est à 8 buts et 8 passes décisives sur la saison, ce qui est quand même des bons.
Surtout que le premier partie de saison n'était pas terrible. Donc là, ça va mieux.
Mais Vardy, 12 buts, Mahrez, 8.
Ouais, c'est ça.
Le problème de Mahrez, c'est que là, cette espèce de faux aller-retour.
Il va avoir du mal à digérer parce que.
Il s'est pas présenté à l'entraînement la semaine dernière.
Et je crois qu'il est toujours pas dans le groupe pour le prochain match.
Oui.
Il faut peut-être que s'il veut partir, vu les sommes que les clubs étaient prêts à mettre pour lui, c'est plutôt Leicester qui a vraiment fermé la porte pour montrer qu'on ne veut pas brader les joueurs, on n'a pas besoin d'argent, c'est un peu le message. Maintenant, s'il veut partir, il est obligé aussi d'aller un peu au clash comme ça, parce que sinon il va finir son contrat et se démonétiser complètement.
Je trouve toujours bizarre les mercatos de Riyad Mahrez qu'on annonce toujours dans des gros clubs.
Ça, c'est vrai que depuis le titre, depuis 2016.
Oui, puis pendant longtemps, alors là, les sommes ont un petit peu augmenté, mais pendant longtemps, c'était un joueur qui était à 30, 35 millions, pas plus, que ce soit pour Arsenal, pour la Roma, pour un garçon qui est champion d'Angleterre, avec du talent, jeune, qui représentait un investissement.
C'est-à-dire quoi, qu'il est trop gourmand, financièrement?
Je pense qu'il y a un truc, je pense que dans les négociations, il y a quelque chose qui tombe pas rond. Aujourd'hui, tous les footballeurs sont à vendre. Plus personne est bloqué dans un club, il peut pas partir. Les joueurs intransférables, ça n'existe plus. Vous avez vu Neymar, vous avez vu les prix aujourd'hui. Donc quand on veut, on peut. Les joueurs, si vraiment des clubs comme City, comme Barcelone, comme la Roma voulaient Mahrez, ils auraient mis des billes dessus, ils l'auraient eu. Si ça a coincé, c'est qu'il y a quelque chose, mais je pense aussi de son côté.
Voilà pour ce qui est du championnat d'Angleterre, donc avec cette déroute de Chelsea qui reste quand même à la 4e place du championnat, mais qui rencontrera bientôt et recevra Barcelone. Justement, Barcelone, on en parle dans la deuxième partie de Radio Foot.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
La deuxième partie de Radio Foot International avec Marc Libra, Naïm Moniol, avec Patrick Juillard et Olivier Pron. Alors nous quittons l'Angleterre et nous allons un peu plus au sud vers justement l'Espagne. L'Espagne où il neige aussi hein, parce que hier à Madrid, le Real n'a pas pu s'entraîner. À Barcelone, peut-être neige-t-il. En tout cas, on aura enregistré au cours du week-end un nouveau record pour l'équipe du FC Barcelone. Qui l'eût cru ? Qui aurait imaginé en début de saison, surtout alors que Neymar abandonnait la fameuse MSN pour d'autres horizons, et bien que le club des Blaugrana ferait un début de saison canon. 22 matchs sans défaite, aucune défaite en championnat donc, et juste 4 résultats nuls, avec 9 points d'avance en tête de la Liga, ce qui fait dire à certains que le titre leur est peut-être promis. En tout cas, il s'en est quand même fallu de peu au cours du week-end, lors de cette 22e journée justement, parce que le Barça disputait le derby barcelonais sur la pelouse de l'Espagnol, et c'était un match très très chaud, n'est-ce pas, François David ? Bonjour.
Bonjour, bonjour Annie, bonjour à tous.
François, c'était un match espagnol-Barça très chaud dans les tribunes. Alors sur la pelouse, je ne sais pas si on peut dire très chaud parce que c'était plutôt la pataugeoire.
Ah bah c'était un véritable bourbier. Je pense que beaucoup de monde ont vu les images. À la fin du match, c'était pratiquement impossible de jouer. C'était des longs ballons en avant parce que le ballon ne roulait pratiquement plus. Alors c'était très compliqué pour le Barça qui s'en est sorti grâce à un coup de pied arrêté, grâce à Gérard Piqué de la tête. Mais ça a été très très chaud. Très très chaud sur le terrain. Beaucoup d'insultes, beaucoup de coups. Même une insulte raciste du joueur de l'Espagnol Sergio Garcia à Samuel Umtiti. Umtiti qui est d'habitude très très calme, là il a pété les plombs parce pour lui c'était insupportable et il avait entièrement raison. Beaucoup d'insultes dans les tribunes, d'insultes à Gérard Piqué, à sa femme Shakira, à ses enfants. C'est en train de devenir, alors c'est le troisième match hein, entre l'Espagnol et le Barça. Il y a eu deux matchs de couple et ce match-là dans un temps très rapproché et ça a été et c'est en train de devenir une vraie, comment dire, pas une rivalité, ça a toujours été, mais une vraie rivalité sportive. C'est-à-dire qu'avant, le Barça s'imposait facilement. Là, ils ont beaucoup plus de mal, même en Coupe du Roi, ils sont passés par un but d'écart. Et très dur. Le Barça a dû faire rentrer Messi qui avait commencé sur le banc, en vue de le préserver, justement peut-être par rapport au temps, par rapport aux conditions, par rapport aux possibles coups qu'il pouvait recevoir. Mais ils ont dû faire entrer Messi pour pouvoir gagner. On a vu une bonne première mi-temps de Philippe Coutinho, la nouvelle recrue, Coutinho qui a frappé sur la barre. Mais dans l'ensemble, une partie très dure et le Barça a eu du mérite finalement de marquer ce but. Et vous l'avez dit, 22 matchs sans défaite. Le record précédent pour le Barça était de 21 de Pep Guardiola. Et le record absolu, alors lui, il date de très très longtemps, de l'année 79-80 de la Real Sociedad qui avait réussi 32 matchs sans défaite. Donc on va voir si le Barça de Valverde peut atteindre ce score-là de 9 points d'avance. C'est bien parti effectivement pour le titre de Liga.
Patrick, des circonstances atténuantes pour cette équipe du Barça de réussir à arriver à cette 22e journée et de ne pas perdre.
Ah oui, non, il n'y a rien à dire. C'est un record parfait. Pourtant, pour moi,
ce match-là, ils ont bien failli le perdre.
Ouais, ils ont bien failli, mais je pense qu'ils ont quand même encore l'expérience des matchs difficiles et des traquenards pour s'en sortir. Le vécu de ces joueurs-là, si on l'additionne, il est impressionnant. Surtout que c'est souvent un vécu ensemble, c'est-à-dire que c'est pas séparément. Après, sur le plan du jeu, c'est pas le meilleur, même si c'est le meilleur total à ce stade de la saison, mais c'est pas le meilleur Barça de l'histoire. Ils ont déjà moins de marge qu'à l'époque de Pep Guardiola, voire même de Luis Enrique. Ils gagnent moins de matchs en déroulant complètement, en gagnant avec 5 ou 6 buts d'écart. Et puis, dans le jeu, c'est un Barça un peu plus gestionnaire. Ce qui enlève rien à son mérite, hein. Mais il m'impressionne moins quand je les vois jouer. Il m'impressionne moins que ne pouvait le faire le Barça de Guardiola.
Marc,
déjà c'est la semaine dernière. Il me semble que c'est Messi qui les sauve sur un petit coup franc bienvenu. Voilà, c'est des conditions difficiles.
Après, j'aimerais savoir, parce que souvent on fait référence au PSG, dès que le PSG est un peu, alors les conditions, ils ont été agressifs, et nous on dit, on protège pas les joueurs. J'aimerais savoir si en Espagne on dit ce genre
on
de choses.
On se chose. Pose la question.
Non, parce que c'est vrai que nous, chaque fois au PSG, dès que, une équipe agressive, il faut protéger nos joueurs. Là, je pense que ça a été un bon match d'hommes, parce qu'en plus, entre deux quartiers, enfin, Espagnol-Barcelone, je peux avoir l'info, est-ce qu'en Espagne, on dit comme en France, qu'en France, on pleure, dès qu'on touche, mais il faut pas toucher Neymar, il faut pas toucher Mbappé, il faut laisser jouer, alors que là-bas, la plupart des joueurs ne sont pas épargnés.
C'est un ancien attaquant marseillais qui vous parle.
Non, mais c'est pas pour ça.
En fait, ici, en Espagne, je trouve qu'on respecte beaucoup plus l'identité des clubs. C'est vrai que quand on part sur un terrain comme l'Atlético Bilbao, on sait que ça va être dur. On sait qu'on va prendre des coups. Quand on joue contre l'Atlético de Madrid aussi, on sait qu'on va prendre des coups. Pour le Barça, qu'on va jouer sur le terrain de l'Espagnol de Barcelone, et je dis bien l'Espagnol de Barcelone parce que Piqué avait dit l'Espagnol de Cornelia, c'est la petite ville à côté, pour provoquer.
C'est pour ça qu'on a insulté aussi toute sa famille.
Il a quand même marqué un bon.
Il a eu ça en retour, mais on sait que ça va être compliqué. On sait que ça va être dur, qu'on va se prendre des coups, mais personne ne dit rien. Non, voilà, ça fait partie de l'ADN d'un club. L'ADN du Barça, c'est pas de donner des coups, c'est plus le jeu collectif et le jeu offensif. L'Espagnol de Barcelone, c'est autre chose, c'est la volonté, c'est de marquer avec le courage, avec le cœur, quitte des fois à mettre la semelle. Bon, voilà. On a beaucoup plus parlé, pour faire un résumé, des insultes et du contexte extérieur que des coups reçus par Messi ou Suarez.
Le Barça marque des buts, ça a toujours été dans ses gènes. 60 buts cette saison en 22 matchs, c'est finalement pas si extraordinaire, même si c'est pas mal. Ce qui est plus impressionnant, c'est 11 buts encaissés seulement. Ça, en 22 matchs de championnat, c'est pas mal. Ça fait 0,5 buts par match. Certes, l'Atlético a une meilleure défense, mais enfin, ce sont deux défenses qui sont très, très loin devant tous les autres concurrents de la Liga. 11 buts, c'est vraiment très peu.
François pourrait dire ça mieux que moi, mais ça faisait quand même quelques temps qu'on n'avait pas revu un Barça aussi solide derrière, parce que depuis que t'as la MSN, à l'époque de la MSN, ils mettaient tout devant et puis on oubliait un petit peu les autres lignes. Là, le départ de Neymar et la recrue et le recrutement de Paulinho, parce qu'on en dit beaucoup de mal de ce joueur. Moi, je trouve qu'il est vraiment très bon, il fait beaucoup de bien au club. Voilà, donc c'est un Barça très solide derrière. Pour rejoindre ce que disait Patrick, plus pragmatique, moins romantique, moins
gestionnaire. Juste sur la défense, François, est-ce qu'ils vont pas avoir quelques problèmes justement de défense ces prochains matchs avec un Samuel Umtiti suspendu, avec un Gérard Piqué blessé?
Oui, et Thomas Vermaelen aussi, le Belge aussi, qui est blessé.
Donc il n'y a plus de défenseur central.
Il y a Mascherano est parti, on le sait, en Chine. Il y a la nouvelle recrue Yerimina, le défenseur central colombien, qui est très jeune. Et pour l'instant, je suis pas sûr que Valverde ait beaucoup, beaucoup confiance en lui. Ça va être un test. Le premier gros test aura cette semaine en Coupe du Roi, le match retour à Valence, où le Barça...
Oui. On est désolé.
Un nouvel instrument de musique, François, du côté de Barcelone, peut-être une cymbale.
Oui, une nouvelle manière de marquer.
Barça avait gagné 2-1 à l'aller.
Ouais. Ouais. En tout cas,
ce sera jeudi soir, le retour. Exactement.
La question, effectivement, qu'abordait tout à l'heure Patrick autour de ce record, et qu'on peut même, on peut essayer de grossir le trait en se disant, est-ce que Ernesto Valverde, qui égale le record de Guardiola, est aussi bon, voire meilleur que Guardiola?
Non, on peut pas dire qu'il est aussi bon ou meilleur que Guardiola. Ce que Guardiola montre depuis tant d'années dans
le championnat, c'est un début de saison,
dans
effectivement, de Liga.
Pour moi, c'est pas inégalable, parce qu'on sait pas ce que réserve l'avenir, mais en tout cas, ça a jamais été fait d'une telle manière. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est super bien adapté. Pour un mec qui est pas du cru, en tout cas, moins que l'été, Villanova, Guardiola, Luis Enrique et compagnie. Ce qu'il fait, c'est vraiment génial. Il a renforcé le secteur défensif. Le milieu de terrain est très bon. Messi est revenu à un niveau où il brille dans les grands matchs. C'est redevenu le grand Messi, ce qui était moins le cas l'année dernière. Donc voilà, ça, c'est tout à son crédit. Son équipe a deux systèmes de jeu. Il y a de la variété dans le jeu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça au Barça. Et paradoxalement, François pourrait dire ça mieux que moi aussi, mais le Barça était souvent mené cette année, n'ont jamais perdu. C'est 7-8 fois mené au score, face des fois à des grosses équipes, ils n'ont jamais perdu. Ça aussi, ça mettra leur crainte.
Oui, mais François ne paye pas son téléphone, il est coupé.
Non, mais je trouve que
il est là.
Je suis de retour.
Il a fait un virement.
Je sais pas ce qui s'est passé.
François, bon. Oui, on a très bien entendu le bip d'ailleurs. Mais François, la question qu'on se posait provocateur, vous nous connaissez. Est-ce que Valverde est meilleur entraîneur que Pep Guardiola? Alors déjà, Naïm vous a précédé en disant non.
On verra sur la durée. Maintenant, c'est vrai que Guardiola a pris l'équipe après Frank Rijkaard, une équipe en pleine désintégration. Il avait redonné un esprit de sacrifice à ses joueurs, mais surtout, il avait un groupe qui finalement n'avaient pas gagné beaucoup de choses. Ils avaient gagné une Ligue des Champions, deux championnats, mais Xavi, Puyol, on sentait qu'ils avaient très très faim. Daniel Alves arrivé de Séville, il avait envie de tout gagner. Messi était très jeune. Là, la mission de Valverde a été plutôt de redonner la fin à un groupe qui avait déjà tout gagné et replay de victoires. Alors, ça passait aussi par, vous l'avez dit, une restructuration défensive, parce que c'est vrai que le Barça, surtout l'an passé, se prenait une avalanche de buts. Le départ de Neymar, vous l'avez dit, a peut-être rééquilibré l'équipe. Ça a profité à un joueur comme Jordi Alba, notamment, qui a retrouvé toutes ses facultés en défense comme en attaque. Ils ont eu la possibilité de voir un Samuel Umtiti en pleine forme, qui a une année de plus et qui s'est vraiment bonifié. Un Vermaelen qui est revenu d'outre-tombe. Un Busquets qui est revenu à son niveau. Un Paulinho qui aide aussi. Tout le monde travaille dans ce Barça-là. Tout le monde aide. Et c'est vrai que devant, c'est plus le 4-3-3 que l'on voyait. C'est plus un 4-4-2 maintenant avec Messi en 9,5 et Luis Suarez en pur attaquant. Un Barça peut-être plus pragmatique, vous l'avez dit, plus équilibré. Moins beau, et c'est peut-être pour ça que les gens pensent que c'est peut-être moins agréable à voir jouer maintenant. S'il y a une Ligue des Champions au bout, s'ils font tripler et qu'ils gagnent tout, Valverde sera considéré comme l'un des grands entraîneurs de l'histoire du Barça.
Porté au nu. Marc, vous demandez à voir.
Non, pas du tout. Moi, je pense que depuis que Neymar est parti, on s'attendait à...
Et Luis Enrique?
Ouais, non, mais on s'attendait vraiment à ce que le Barça, enfin, on n'en parle pas forcément, quoi. C'est vrai, ça fait moins rêver, mais les stats sont là. Et finalement, on se dit, parce que, rappelez-vous, Zidane, de Ligue des Champions, c'est une machine, ça ne s'arrête pas, c'est la folie. Il y a eu énormément, de choses autour de ce Madrid-là, de City qui recrute. Et finalement, Barça, Neymar, ça va. Oh, c'est catastrophique. Paris, Mbappé, vous vous rendez pas compte. En tout cas, le Barça, ils sont là, il va falloir aller les chercher, quoi.
Ouais, même pris Coutinho, ils ont quand même Dembélé, sous le coude.
Coutinho, Dembélé, pour moi, il joue pas.
C'est un bébé
pour l'instant. Mais en tout cas, je pense que on est en train de sous-estimer et puis tranquillement, pragmatique comme tu dis, tu as raison. Ils sont tranquilles et attention, on va voir la fin de saison.
Non, mais moi je suis d'accord. Je pense que surtout, ce qui permet de régénérer l'équipe, c'est que bon, d'une part, on a parlé des recrues, Naïm en a très bien parlé, mais aussi Valverde leur fait faire des choses qu'ils avaient un peu perdu l'habitude de faire, c'est-à-dire défendre ensemble, c'est-à-dire compenser les montées des uns par des replacements et tout ça, alors qu'avant, ils se reposaient beaucoup sur le talent offensif pur de l'équipe, et parfois, ils encaissaient un ou deux buts parce qu'ils en marquaient cinq avant. Là, c'est plutôt des victoires un peu plus étriquées, mais en prenant moins de buts, donc c'est une autre identité et ça fonctionne. Après, sur la durée, je sais pas si ça peut durer très longtemps, mais en tout cas cette année ça fonctionne.
En tout cas c'est ce qu'on verra puisqu'ils jouent le 20 février prochain et eux ils iront donc du côté de Stamford Bridge, du côté de Chelsea. François, il y a aussi évidemment, quand on parle Barça, on pense aussi Real, toujours des résultats inégaux, les Merengues qui arrachent eux un résultat nul à Valence, c'était face à Levante, 2-2, ils se quand même rapprochent de la deuxième place, mais ça c'est plutôt parce que Valence accumule les défaites. En tout cas, l'équipe a toujours ses hauts et ses bas et Zizou a du mal à les expliquer.
Il faut travailler encore plus dur. C'est le foot, l'adversaire peut vous mettre en danger. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'après avoir pris l'avantage, on aurait dû éviter ce but. Cela m'ennuie car on a travaillé là-dessus. On savait que Levante était dangereux en contre. Ils ont eu 4 occasions et ont marqué 2 fois. Ce n'est pas normal. Maintenant, la Liga se dispute toujours tant qu'elle n'est pas terminée. On a beaucoup de points de retard, on vient d'en lâcher 2 de plus. Même si on a maîtrisé cette rencontre, on voulait une 3e victoire de rang, mais c'est raté.
Sinon, la conseguimos. Alors, pas de 3e victoire, plutôt un match nul. Ils travaillent, mais ils n'arrivent pas à maîtriser leur score et leurs résultats. Pourquoi, François?
C'est un mélange de plein de choses. Peut-être un peu de suffisance actuellement.
Malgré les résultats, de la suffisance.
Oui, parce que je pense, moi, et en sortant Cristiano Ronaldo en fin de match, alors que le Real gagnait 2-1, je pense que Zidane avait peut-être pensé que c'était bon, qu'il allait pouvoir enchaîner après une victoire convaincante la semaine dernière contre Valence. Et ça n'a pas été le cas. On est retombé dans les travers. Beaucoup de, un marquage assez lâche. On parlait du Barça qui travaillait beaucoup les uns pour les autres. Là, c'est moins le cas pour le Real Madrid. Et on se souvient que Zidane a tout fait vraiment pour protéger son groupe. Il a refusé de recruter au mercato d'hiver.
Ça, on le dit souvent.
Il a vraiment confiance dans son groupe. Et là, depuis quelques semaines, le discours de Zizou change un petit peu. Il protège moins son groupe. Il met plus en face les erreurs commises par les uns et les autres, et il essaye de mettre un petit peu tout le monde devant leurs responsabilités. Il y avait Marca cette semaine qui avait dit que le groupe du Real Madrid allait mourir pour Zidane. Je pense qu'il y a une confiance toujours mutuelle, mais pour la première fois, Zidane est plus critique avec son équipe. On a vu Ronaldo sortir avec une moue en regardant Zidane. Après, ça s'est vite calmé parce que Ronaldo est tout sauf bête. Il a compris que si jamais on commençait à faire un scandale, ça allait encore plus.
Surtout qu'il marque pas beaucoup.
En tout cas, en Liga. Il a eu 33 ans hier.
C'est le même jour que Neymar d'ailleurs.
Moi, je pense, je vais être honnête avec vous, Annie, je pense que sa dernière saison au Real Madrid. À Ronaldo après presque 10 ans, là il a eu 33 ans, il marque moins, il a des problèmes avec le fisc espagnol, l'Angleterre lui tend les bras toujours. On assiste peut-être à la fin d'un cycle.
Entre ici et Eden Hazard.
Marc.
Non mais justement, je voudrais revenir sur le cas Ronaldo. Alors c'est vrai qu'il est sorti, il a fait la moue. Il se dit que au niveau du vestiaire, les joueurs en ont assez de Cristiano Ronaldo parce qu'il est sur une énième prolongation de contrat. Et c'est vrai que malheureusement, vu son rendement, tu as dit un mot important, tu as dit le Barça, ils travaillent les uns pour les autres. Et ce qu'on voyait de Madrid la saison passée, on n'arrive pas à le retrouver cette année. Est-ce que malheureusement, tu l'as dit, on arrive peut-être au bout de Ronaldo, mais est-ce que les joueurs n'ont pas assez de lui? Est-ce que ça peut être, parce que c'est vrai que les échos que je peux avoir, on me dit mais c'est une diva et là ils en peuvent plus. Surtout François, que le rendement n'est pas là. Quand il te marque oui, 50 buts, mais là
Marqué quand les champions en phase de poule,
ça peut être un peu le problème.
9 buts en 6 matchs quand même, hein.
Ouais, mais ils sont deuxième,
c'est pas mal.
François,
bien sûr, mais c'est la sensation surtout que transmet Ronaldo. C'est vrai qu'en passé, depuis plusieurs années, on avait la sensation que dès qu'il s'approchait dans les 15 mètres, il allait marquer. Là, c'est moins le cas. Il a vu que Messi avait prolongé son contrat, tu l'as bien dit Marc, ouais. Il veut plus parce qu'il se considère comme le meilleur joueur du monde. après le Ballon d'Or, après le trophée The Best, après avoir gagné 2 Ligues des Champions, ça peut être légitime en un sens, mais il faut pas oublier que Ronaldo avait prolongé déjà il y a un an et demi à des conditions déjà folles pour un joueur déjà trentenaire. Donc c'est pour ça que je dis, moi je sens que c'est la
fin du cycle Cristiano.
Ils doivent passer à autre chose, ils doivent recruter d'autres joueurs plus jeunes avec
peut-être
plus de
Neymar. Neymar peut-être.
Et de fêter leurs 26 ans peut-être, non?
Non, voilà, peut-être ouais, Eden Hazard, oui.
Je crois pas.
Neymar, Eden Hazard plutôt.
Ou peut-être mettre en selle un joueur qu'on voyait un petit peu plus il y a quelques mois et qu'on voit quasiment plus du tout, en tout cas moins, c'est Isco, parce que Isco, moi je trouve aussi, pour voir avec toi François qui est sur place, Isco avait quand même amené beaucoup de variété dans le jeu de Zidane, dans l'équipe de Zidane, c'était un électron libre, il pouvait jouer sur un côté, il se réaxialisait, il s'est marqué, il sait faire
il
des passes,
il jouait
bien
pour moi.
Et à un moment donné, le fait que Zidane revienne à son 4-3-3 avec la BBC, est-ce que le Real n'est pas devenu un petit peu plus caricatural que l'année dernière, que l'année d'avant, et que pourquoi, alors on part de recruter Hazard peut-être, mais donner un peu plus d'importance à Isco dans le schéma de jeu, ce qui était le cas il y a encore quelques semaines?
Oui, mais ses meilleurs résultats, Zidane, il les a eus justement avec la BBC, avec Bale, Ronaldo et Benzema, et il croit dur comme fer à cette attaque. Quand on disait qu'il protégeait son groupe à fond, ça concerne aussi un joueur comme Asensio. Confiance à Gareth Bale devant Asensio. Asensio, il doit prouver qu'il doit, selon Zidane, qu'il a le niveau pour être titulaire dans le Real Madrid. Et pour l'instant, Asensio, Isco, quand Benzema, Ronaldo et Bale sont en forme, et sont eux qui vont jouer. Ça,
quid de Benzema? On parle pas du tout de Benzema. Enfin, il l'a mentionné 2-3 fois, François, mais c'est vrai que la saison de Benzema est franchement mauvaise, très mauvaise, peut-être la pire qu'il ait tenue au Real. Il le protège aussi, lui aussi. On l'imagine mal rester et encore moins si Ronaldo part.
En tout cas, ça sera l'heure de vérité dans quelques jours, hein, puisque ce 14 février approche à grands pas et on en parlera beaucoup.
Vous parlez de la Saint-Valentin?
Oui, bien sûr. Personne ne verra le match ici. On est bien sûr. Ce soir, donc.
Ici, on la fêtera au micro.
Exactement.
En tout cas, François, restez avec nous parce que il y a une arrivée, ça concerne un club espagnol et c'est un ex-merengue.
Attenzione Clarence, tiro di Clarence. Non l'avevo detto! L'avevo detto! Clarence Serra, Clarence Serra.
Alors, pas vous l'avez entendu. À quand ça chez nous? Abby Bay qui se met à gueuler comme ça, ça serait pas bon?
Donc, il s'agit de Clarence Seedorf. C'était évidemment lors d'un derby aussi chaud que peut en présenter l'Italie, ou que pouvait surtout en présenter l'Italie, un Milan-Inter avec Clarence Seedorf, donc le grand joueur des Pays-Bas aussi, et qui fut donc longtemps idole des supporters rossoneri, et bien qui tente une nouvelle aventure. Et cette fois, François, il se retrouve et bien sur le banc du Deportivo La Corogne. Alors eux, ils voient le gouffre de la relégation très près, ils sont 18e et du coup on met Clarence Seedorf là, c'est un bon choix.
Bon courage en tout cas pour Clarence Seedorf avec cette équipe-là. Moi je vous dis, parce que ça fait des années que Deportivo La Corogne, qui n'a plus rien à voir que le super Deport, on avait pu voir pendant des années en Coupe d'Europe, qui avait éliminé le PSG il y a 10 ans. C'est une équipe en décomposition totale, beaucoup de joueurs prêtés qui viennent de droite à gauche, qui sont pas, qui ont pas une vraie identité avec le maillot. C'est le troisième entraîneur Seedorf cette saison, qui remplaçait d'ailleurs un ancien joueur du PSG, Cristobal, je sais pas si vous vous souvenez, un latéral droit qui joue au PSG, qui a pas eu de grands résultats, mais que c'est friable cette équipe-là. Seedorf, qui a pas eu une grande expérience en passé au Milan AC, si je me trompe pas, il avait fait quelques semaines sur le banc de touche.
2014.
Couramment, il a des références, champion avec le Real Madrid plusieurs fois, vainqueur de la Champions League. Mais il va falloir beaucoup, enfin, qu'il insuffle cette compétitivité que lui avait en tant que joueur. Et avec les joueurs qu'il a sous la main,
on a compris. Les
compétences de Clarence Seedorf restent à démontrer. 6 mois au Milan AC de janvier à juin 2014.
Mais ils les avaient sauvés du trou quand même.
6 mois, voilà, c'est quand même
mission
peu pour
commando.
Montrer. Derrière Shenzhen en Chine, il reste 16 matchs sur le banc. C'était l'an passé.
Projet
on peut
sportif.
Pas dire que ce soit une très grosse carrière. Non, mais le projet sportif. On rappelle juste pour être précis, Seedorf en tant que joueur, c'est 4 Ligues des Champions en revanche, ce qui doit être unique. Une avec l'Ajax, une avec le Real, 2 avec le Milan AC, donc 4 Ligues des Champions avec 3 clubs différents, là ça vous pose un joueur. L'entraîneur, j'attends de voir.
Ce qu'on attend de lui, je pense que c'est un esprit commando en fait, c'est-à-dire qu'on attend de la nomination d'un joueur qui a gagné énormément de titres comme Seedorf, qu'il insuffle cette gagne, cette culture de la gagne à des joueurs qui ne l'ont pas. Moi, je suis pas très certain que ça puisse marcher au-delà de quelques matchs.
D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est le troisième choix. Parce que à la base, il voulait Lazarte, l'Uruguayen qui est à Católica au Chili. Bon, finalement, lui, il a refusé parce que justement, le projet lui paraissait pas très clair. Ensuite, ils ont sondé Diego Alonso de Pachuca, sauf que pour une histoire administrative de permis de travail ou je sais pas quoi, il pouvait pas être là en Europe. Donc, ils se sont rabattus sur Seedorf. Mais déjà,
qui est déjà le troisième entraîneur de la saison. Hein.
Non, mais qui est le septième entraîneur depuis 2014 et l'arrivée du président Pico.
Donc, c'est alors, c'est qui ce président, Naïm?
Le président Pico. Alors, François pourrait confirmer ce que je dis. Pico. Je crois que c'est un businessman qui a réussi dans le monde des télécommunications, qui est pas patron d'un groupe qui doit s'appeler Altia ou quelque chose dans ce groupe-là, qui a repris le club en 2014 après le président historique Lendwako, celui qui a l'année du titre.
Lando Hero,
voilà, et des coupes d'Europe. Et depuis 2014, c'est 7 entraîneurs, parce que c'est un type un petit peu businessman, un peu machin. On est dans la rentabilité, on en parlait tout à l'heure avec Chelsea. C'est toujours des mercatos qui sont ahurissants dans un sens comme dans l'autre à la Corogne, pour au final se maintenir à la 15e place et faire pire défense de Liga. Et donc, je crois qu'il y a un problème qui est profond et qui dépasse à mon avis le cadre du banc. Moi j'ai juste une question pour François, rapidement. Est-ce que le Paris Seedorf, au-delà de l'aspect insuffler la gagne parce que ça a été un très grand joueur, est-ce que c'est pas aussi misé sur son nom et essayer de tenter un peu sur un autre aspect footballistique, parce que qui veut venir à la Corogne aujourd'hui quoi?
En tant que joueur déjà pas grand monde, en tant qu'entraîneur on l'a vu, il y a eu déjà 2 refus, vous l'avez dit, et c'est vrai que ce nom-là ça peut peut-être fédérer, donner de la crédibilité aux yeux justement des joueurs qui ne savent plus trop à quel sens se vouer, voir un joueur comme Seedorf qu'ils ont vu quand ils étaient petits gagner plein de Ligue des Champions, des championnats avec le Real Madrid, ça peut les aider. Mais je pense, moi je suis dans la lignée, je sais pas si c'est Patrick qui disait ça, mais que sur quelques matchs, ce groupe-là, sous beaucoup trop de de lacunes défensives et offensives pour pouvoir faire une fin de saison correcte, selon moi.
La Corogne, c'est une victoire sur les 12 derniers matchs. Hein. Ça veut dire 3 nuls et 8 défaites.
En tout cas, le petit plus aussi, c'est que s'il est le troisième choix pour ce qui est des dirigeants de la Corogne, lui, Seedorf, il avait fait un passage dont les supporters de Botafogo au Brésil se souviennent avec émotion, parce qu'il est resté 2 saisons. C'était certes en fin de carrière, mais il les avait notamment aidés à gagner un titre qui était la Copa, la Taça Rio, quand on était les Brésiliens.
Ah ouais, celle-là, moi, je l'ai pas, celle-là.
Ah ouais,
hein, n'est-ce pas,
Taça, c'est pas tout le monde qui la gagne. Hein.
Il a essayé, là, il a été contacté pour être l'entraîneur de l'Atlético Paraná, qui est un des clubs de la première division brésilienne. Ça s'est pas fait, les négociations n'ont pas continué. Mais je parlais tout à l'heure avec Elcio Ramalho, notre camarade de la section brésilienne, qui disait, ah bah alors c'est dommage pour Botafogo, parce que là-bas aussi, on espérait qu'un jour, il revienne
sur le banc.
C'est un type
qui laisse une bonne image partout où il va.
Exactement.
C'est un mec qui était délicieux, mais ça ressemble quand même à un entraîneur qui a besoin de bosser. Ça ressemble un peu au mec qui a envie de bosser, qui se propose un peu partout.
Qui veut rester dans le milieu.
Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il se propose un peu partout. Et quand on s'appelle Clarence Seedorf et qu'on a une carrière de joueur comme la sienne, faire Chenzen et la Corogne, c'est un peu pauvrasse quand même.
On l'avait vu très près, hein, n'est-ce pas, Olivier Pron, à Rio de Janeiro.
Ça, vous étiez pas mais.
Juste avant la finale.
Enfin, la photo est quand même très à contre-jour. Hein, il faudra...
Juste avant la finale, devant le stade du Maracana, Clarence Seedorf était là
c'est quelqu'un pour nous tous, hein, à quelques années près, pour notre génération, c'est quand même un joueur qui était extraordinaire. Il a une bonne tête, il inspire la sympathie. Est-ce qu'il va inspirer les résultats aux joueurs de la Corogne? Je suis moins sûr.
On verra ça avec vous, n'est-ce pas, François, hein? Vous restez
évidemment,
à l'écoute.
Évidemment.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, François,
merci
d'avoir été en direct avec nous
du téléphone, hein.
Dans ce Radio Foot International. Merci, messieurs. Merci aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission. Guillaume Ploquin était à la réalisation, aidé d'Antonin Dulé. Et on vous dit à demain.